Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On allait voir ce qu'on allait voir. En arrivant à la Maison Blanche, Donald Trump promettait un grand chambardement en matière de relations internationales, prise de distance avec l'OTAN, rapprochement avec la Russie, moulinet du bras en direction de la Chine, mur avec le Mexique. 100 jours ont passé, c'est peu, mais suffisant pour constater que le nouveau président américain tient un discours bien différent désormais. L'OTAN n'est pas si obsolète, la Chine n'est pas si hostile, Poutine n'est pas si fréquentable, comme si Trump avait dû revenir à un certain ordre diplomatique. C'est qu'on ne change pas d'alliance si facilement. Les ruptures radicales sont rares, peut-être moins d'ailleurs du fait de leur solidité que de leur souplesse. Dans un monde devenu multipolaire, où les relations commerciales sont au moins aussi importantes que les relations militaires, les recompositions échappent aux logiques anciennes. Alors diplomatie, comment rompre avec ses alliés? Bien, c'est presque une question de cours que nous allons poser ce soir à trois invités. À commencer par vous, Pierre Grosser, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste des relations internationales, vous les enseignez à Sciences Po. Vous êtes passé par l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères et vous allez publier dans une semaine tout juste « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle ». C'est publié aux éditions Odile Jacob. Pour discuter avec vous, un ancien ambassadeur, Michel Duclos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez notamment été ambassadeur en Syrie de 2006 à 2009. Ensuite, c'était en Suisse, je crois. Vous êtes aujourd'hui directeur général de l'Académie diplomatique internationale. Vous avez publié en début d'année, je ne sais pas si vous en souvenez, dans l'Opinion, une tribune intitulée « Diplomatie, le retour des alliances et des contre-alliances fluctuantes ». Vu que c'est notre sujet de ce soir, c'est la raison pour laquelle je la cite. Et puis, notre troisième invité, Guillaume Devin, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po, spécialiste de relations internationales, vous aussi. Si, les organisations internationales, c'est le titre d'un de vos ouvrages publié chez Armand Collin, la deuxième édition, c'était l'an dernier. Alors j'ai évoqué Trump pour démarrer l'émission, mais je voudrais d'abord qu'on commence peut-être par la France, puisque la question des relations diplomatiques a été finalement assez présente lors de cette campagne présidentielle. Et j'avais une question purement théorique et de pure politique fiction à vous poser à tous les trois. Mais imaginons que le futur président choisisse de rompre aujourd'hui avec son plus fidèle allié. Avec qui s'organiserait la rupture, Pierre Grosser?
C'est-à-dire une rupture totale avec les États-Unis?
Ah ben je ne sais pas si les États-Unis sont le plus fidèle allié, le plus proche allié de la
Français
France.
Les Français ont quand même espéré cette alliance de 1919 à 1949, donc pendant 30 ans, et estiment qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Américains ne se sont pas engagés au lendemain de la Première Guerre mondiale, malgré certaines promesses et des promesses britanniques aussi. Donc on était relativement soulagé en 1949 d'avoir au moins un bout de papier avec un certain nombre d'engagements, et ce bout de papier est devenu, avec la guerre de Corée, une organisation relativement complexe. Alors on sait l'histoire compliquée de Gaulle avec cette organisation, mais de Gaulle était allié des États-Unis, donc l'OTAN et l'alliance avec les États-Unis sont deux choses qui sont différentes. Donc on peut critiquer l'OTAN, peut-être qu'un nouveau président critiquera l'OTAN, une nouvelle présidente critiquera à l'OTAN, de la arrêter complètement l'alliance avec les États-Unis, je pense que c'est une autre question.
Voilà, on est évidemment dans quelque chose de purement hypothétique. Je pensais que vous alliez répondre l'Allemagne. L'Allemagne, est-ce que ça aurait pu être votre réponse à vous, Michel Duclos?
Oui, ça aurait pu être ma réponse, mais je crois que c'est encore plus difficile de rompre avec l'Allemagne, naturellement. Ceci dit, pour rester dans l'esprit de votre question, il faut sans doute distinguer les ruptures douces et les ruptures brutales, ou les vraies ruptures et les fausses ententes, etc. On peut rester allié sur le papier, on peut rester comme un mariage. L'alliance, c'est pas seulement un contrat, c'est aussi des gestes quotidiens. Et donc, il y a une façon de rester allié, mais de vider l'alliance de sa substance.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs des alliances qui organisent de manière très précise les relations aujourd'hui entre la France et l'Allemagne?
Il y a le traité de l'Élysée et puis il y a le traité de l'Union européenne, oui.
Alors on a les États-Unis, on a l'Allemagne, pour Guillaume Devin, puisque finalement ma question ça revient à vous demander quel est l'allié le plus,
non,
le plus proche de la France.
Je rappellerai simplement que l'Union européenne est une forme d'alliance, surtout depuis le traité de l'Union européenne révisé par le traité de Lisbonne, puisqu'il y a un article, qui est l'article 42, paragraphe 7, qui est un article qui prévoit une clause d'assistance mutuelle Hein. Un pays agressé sur son territoire est en situation d'attendre assistance et aide de la part des autres membres. Donc c'est une forme d'alliance.
Quand vous dites c'est une forme d'alliance, ça veut dire qu'il y a beaucoup de formes d'alliance aujourd'hui. En préparant l'émission, on n'a pas trouvé énormément de littérature sur le sujet. Et juste avant d'entrer en studio, vous faisiez aussi un peu ce constat de dire c'est compliqué à prendre en main.
L'alliance est un animal assez particulier, sous des formes très diverses. On a des alliances qui peuvent être durables, plus ou moins institutionnalisées. On a des alliances bilatérales, on a des alliances multilatérales, on a des pactes, des ententes, des accords de sécurité commune. Tout ça ne reflète pas exactement la même chose. Mais si jamais on prend quelques indicateurs, le nombre de membres, l'homogénéité, c'est-à-dire la solidarité idéologique, une certaine forme d'institutionnalisation, le fait qu'il y ait un siège, une organisation permanente, et puis un troisième indicateur qui pourrait être une forme de fonctionnalité, par exemple des exercices communs, une certaine interopérabilité. De ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue de ces quatre indicateurs, l'Alliance Atlantique et son organisation, l'OTAN, est un cas tout à fait exceptionnel dans l'histoire des relations internationales.
Pierre Grosser.
Oui, c'est considéré même plus qu'une alliance. C'est qu'on considère, en sciences politiques, mais ça, Guillaume Devin, c'est mieux que moi, une communauté de sécurité. Donc ça veut dire, ça va au-delà. Hein. L'idée de communauté, c'est évidemment quelque chose qui est supérieur, avec des valeurs normalement spécifiques, ce qui normalement dans les alliances, c'est pas très traditionnel. La France, quand elle s'alliait avec la Russie tsariste, la France républicaine, ou la France catholique avec l'Empire ottoman, les questions de valeurs, et où là, évidemment, la France de Gaulle avec l'Union soviétique stalinienne, c'était évidemment des valeurs un peu particulières. Là, il y a des vraies communautés.
Les intérêts, les valeurs.
Voilà, alors là, c'était des intérêts plus que les valeurs. Donc là, il y a aussi les valeurs qui rentrent en ligne de compte. Et une des choses qui est intéressante dans cette idée de communauté de sécurité, c'est qu'un des rôles des États-Unis dans cette affaire, c'est d'essayer aussi de gérer des tensions internes à l'Alliance. C'est-à-dire, par exemple, entre Grecs et Turcs, s'il n'y avait pas l'OTAN, on peut se poser des questions. Ils sont entrés tous les deux dans l'OTAN en 52. Ça a contribué, l'OTAN, quand même, à rapprocher la France et l'Allemagne. L'Allemagne rentrant en 1955. Mais je rappelle juste une chose, c'est quand même que quand Trump est arrivé au pouvoir, on a considéré que cette remise en cause des alliances était complètement folle, etc. Mais les Américains, traditionnellement, n'aiment pas les alliances. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était pas nos alliés formellement, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas un traité d'alliance. C'était les Nations Unies qui combattaient, mais il n'y avait pas un traité formel d'alliance. Et le grand tournant historique, c'est la fameuse résolution Vandenberg de 1948, quand le Congrès, finalement, a autoriser des alliances en temps de paix. Et ça, c'est une révolution considérable dans l'histoire longue des États-Unis, alors que traditionnellement, ils ne voulaient pas se lier les mains. Donc, si on s'est tellement habitué au fait que les Américains ont multiplié les alliances, qu'on a l'impression que pour eux, c'est-à-dire, c'est dans leur ADN. Et ben, je pense que justement, ce n'est pas dans leur ADN. Et c'est peut-être ça qui pose question aujourd'hui aux États-Unis. Il n'est pas le seul à penser que ce n'est pas dans l'ADN des États-Unis.
Est-ce que c'est davantage dans l'ADN de la France et de la diplomatie française, Michel Duclos ? Cette question des alliances.
Sans doute, oui, quand même, puisque nous, ça fait quand même très longtemps que nous avons un sentiment de faiblesse relative, et donc nous avons besoin d'appui extérieur, donc de la nécessité de contractualiser nos relations, alors soit avec la Russie, l'Angleterre, etc. Ça peut changer. Alors qu'effectivement, les États-Unis ont longtemps vécu sur cette idée qu'ils étaient seuls, qu'ils n'avaient pas grand-chose à craindre. Ceci dit, vous avez mentionné Trump. On ne sait pas si son intention était vraiment de rompre ou si c'était seulement de secouer. Puisque vous savez, il y a cette théorie sur laquelle, dans le livre qui lui est attribué, qu'il a signé, il fait l'apologie d'une méthode des négociations qui consiste d'abord à se fâcher, à dire qu'on va tout casser, etc., pour ensuite se rabibocher. C'est ce qu'il a fait un petit peu avec le Japon, avec la Chine, d'une certaine façon.
Mais est-ce que vous y voyez le signe d'une stratégie qui aurait été réfléchie, ou bien est-ce qu'on peut considérer que Donald Trump, de manière peut-être plus rapide qu'on ne l'imaginait, s'est laissé rattraper par la réalité de ce que sont les relations des États-Unis avec le reste du monde ?
Je crois qu'il y a les deux. Je crois qu'il y a de sa part, il y a une tactique qu'il a apportée de sa pratique des affaires. C'est une tactique d'ailleurs assez classique en diplomatie. Simplement, il l'a poussé dans des formes extrêmement visibles. Et puis, par ailleurs, il y a effectivement le principe de réalité. Et là, c'est aussi l'appareil, c'est-à-dire le Parti républicain, les militaires qu'il a nommés à des postes importants, donc une certaine forme d'état profond, comme on dit parfois, ou de tradition qui conduit le président à des ajustements et à des ajustements en fonction du principe de réalité, en effet.
Vous voyez les choses de la même manière, Guillaume Devin ?
Non, je voudrais revenir sur une question qui était un peu sous-jacente à votre observation. C'est au fond, pourquoi est-ce qu'on rentre dans une alliance ? Alors, on rentre dans une alliance, je l'ai dit, hein, c'est très compliqué, les situations sont extrêmement diverses. Mais on rentre dans une alliance pour des raisons qui un peu évoquées par Pierre Grosser, c'est-à-dire soit pour multiplier la puissance, renforcer ses capacités, soit pour contraindre des partenaires adversaires, des rivaux. Hein. Donc on a ces deux motivations pour rentrer dans une alliance. Et quelles sont les raisons que l'on pourrait retenir pour quitter une alliance ? On quitte une alliance essentiellement quand la perception des menaces change. Lorsque la perception des menaces change, les alliances changent. Or, de ce point de vue, on ne peut pas dire que la perception des menaces est radicalement changée, hein, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, au moment où nous parlons. Et que si les menaces ont changé, elles se sont plutôt globalisées, hein, que déplacées vers des objets particuliers ou des pays particuliers qui seraient des facteurs déterminants de menaces.
Enfin, ça dépend à quel passé vous faites référence, parce que la menace avant la chute du mur, c'était du point de vue du camp occidental, la menace communiste. Aujourd'hui, la menace, on va dire toujours du point de vue du même camp, mais qui s'est peut-être élargie, justement du point de vue de cette perception, c'est la menace du terrorisme islamiste. Est-ce que, justement, ça a vraiment contribué à modifier les alliances, Guillaume Devin, cette menace-là, qui est une menace qui est à la fois perçue du côté russe, du côté américain, du côté européen, dans certains pays d'Afrique également, c'est-à-dire une menace beaucoup plus globale, mais on n'a pas l'impression que ça modifie considérablement, justement, ces alliances.
Alors, le terrorisme est justement un bon exemple de ce que je dis, c'est-à-dire c'est tout à fait une manifestation de la globalisation des menaces. Et par rapport à cette globalisation des menaces, il faut parler d'une autre alliance dont on n'a pas du tout parlé ici, qui à mon avis est une alliance au-dessus des alliances, qui est quand même l'alliance qui est représentée par ce qu'on appelle la sécurité collective. Même si cette sécurité collective est affectée de beaucoup de dysfonctionnements et de déceptions, la sécurité collective, c'est-à-dire celle qui est mise en œuvre par le Conseil de sécurité ou qui n'est pas mise en œuvre par le Conseil de sécurité, a quand même cette fonction de répondre à des menaces qui sont globales, c'est-à-dire qui dépassent des menaces qui seraient uniquement incarnées par tel ou tel pays ou facteur.
Pierre Grosser.
Oui, sur le changement de perception des menaces, c'est tout le discours russe aujourd'hui, c'est de dire pourquoi vous avez maintenu l'OTAN après 1991. C'est-à-dire que normalement, il n'y avait plus de menaces soviétiques. Et donc, l'argument, et qu'on retrouve aussi dans une partie de gens qui étudient de façon assez critique, disons, la politique extérieure américaine de ses alliés, c'est de dire que finalement, l'OTAN devait se préserver après 1991, soit parce que les Américains voulaient rester en Europe, dominer l'Europe, etc., soit parce que vous aviez toute une infrastructure de l'OTAN qui a essayé d'inventer des menaces les unes après les autres. Hein. C'était la guerre au Kosovo, donc les questions, disons, de nettoyage ethnique et de violence ethnique. Ensuite, ça a été le terrorisme. Après, ça peut être encore autre chose. Et maintenant, ça serait le retour de la puissance russe. Donc, il y a une approche critique pour dire que finalement, c'est pas la menace changeante qui est importante, c'est en fait qu'il y a un noyau dur finalement otanien qui cherche des légitimations dans des menaces plus ou moins instrumentalisées ou plus ou moins inventées. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'était par rapport justement aux ruptures des alliances parce que la menace changeait. Il y a aussi une des raisons des alliances, c'est de trouver des ressources. C'est-à-dire, on voit, on est client d'une certaine façon et on a une aide militaire. Par exemple, le Pakistan a été très content d'être allié très tôt des États-Unis c'était pas par rapport à la menace soviétique, c'est très largement parce que ça fournissait un certain nombre d'armes face à l'Inde. Bon, pourquoi est-ce que l'Égypte est sortie du giron soviétique dans les années 70, hein, progressivement? C'est aussi parce qu'il y avait le carnet de chèques américain. C'est pas seulement parce qu'il y avait une menace qui était différente. Donc la question des ressources, et aujourd'hui il y a un certain nombre de pays qui rentrent dans l'OTAN et les élargissements de l'OTAN, ça a été aussi pour un certain nombre de pays des ressources. Je crois que c'est un élément qui est important. C'est un élément de sécurité. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'élément de sécurité, mais c'est aussi un élément de ressources.
Alors, du point de vue justement de l'ensemble de ces critères que vous avez évoqués depuis le début de la discussion, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la politique d'alliance aujourd'hui de la France? Est-ce qu'elle participe de l'ensemble de ces critères pour vous, Michel Duclos? Est-ce qu'il y en a qui sont mises en avant plus que d'autres? Est-ce qu'on est d'abord sur des alliances qui sont liées aux valeurs, aux intérêts, à des intérêts qui seraient des intérêts de sécurité, des intérêts éventuellement commerciaux? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ça? Je suis allé par exemple sur le site du ministère des Affaires étrangères en me disant, tiens, je vais peut-être trouver, je sais pas moi, une page avec la liste par exemple, des alliés de la France qu'on pourrait, voilà, avec différents niveaux, sans surprise, enfin j'imagine, en tout cas j'ai pas trouvé de documents aussi précis que ça.
C'est ce qui me frappe, si vous voulez, et là je voudrais rebondir sur l'idée de monsieur Grosser sur valeur et intérêt. L'Alliance Atlantique, effectivement, c'est une communauté définie à la fois par une philosophie commune et, au départ, par des menaces. Mais les deux étaient un peu indissociables. Et à partir du moment où les menaces ont disparu ou se sont atténuées, la menace principale qui avait justifié la création de l'Alliance Atlantique, on est resté ensemble plutôt à cause des valeurs. Mais on l'a conçu un peu comme une police d'assurance. C'est ça qui était difficile à faire comprendre à nos amis russes. On n'est pas contre vous, mais on garde une police d'assurance. Quand vous contractez une police d'assurance, il n'y a pas forcément le feu chez vous en ce moment. Mais vous dites que le feu peut arriver un jour. Et donc on est resté comme ça, un peu ensemble, par les liens de l'histoire et des valeurs. Puis petit à petit, effectivement, la perception de la menace est revenue et l'Alliance Atlantique a été reprise au sérieux, pas seulement sous l'angle politique ou des valeurs, mais sous l'angle militaire et autres. Avec, effectivement, ce malentendu sur le terrorisme. Parce que c'était une des raisons pour lesquelles M. Trump voulait mettre en cause l'Alliance Atlantique. Il trouvait qu'elle faisait pas suffisamment d'action contre le terrorisme, qu'il fallait donc réviser l'Alliance pour en faire plus contre le terrorisme. Or, il faut bien le dire, la structure qui peut être utile dans la lutte contre le terrorisme, c'est pas une alliance militaire comme l'OTAN, c'est plutôt l'Union européenne avec sa capacité de soft power qui peut apporter dans un certain nombre de pays des réponses en profondeur au développement ou aux sources profondes du terrorisme. Mais quand on aborde ce type de sujet, on raisonne toujours en fonction de traditions ou de schémas psychologiques hérités du passé. Permettez-moi de dire aussi que on utilise le mot allié soit au sens étroit de gens qui sont partis à une alliance, soit, et c'est quand même le sens le plus courant du terme, et c'est dans ce sens-là que je l'avais utilisé dans le papier que vous avez cité, dans un sens plus général. On dit, dans le Golfe, nos alliés, saoudiens, qataris, etc. Et là, quand on parle de renversement des alliances, c'était d'aller du côté de l'Iran contre les États du Golfe. Alors qu'évidemment, avec ces pays, il n'y a pas de document au sens strict comme avec les États-Unis, l'Allemagne, dans le cadre atlantique ou le cadre européen.
Ça veut dire que ce sont des alliances qui sont plus faciles à remettre en cause parce qu'elles sont moins formalisées?
En tous les cas, elles sont moins formalisées. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles seraient si faciles que ça à remettre en cause parce qu'elles reposent pour le coup sur des intérêts également très, très puissants, sur des ressorts très forts, à la fois économiques et de sécurité. Et j'allais dire aussi, sur un plan diplomatique, là je parle un peu de boutique, si vous voulez changer vos alliances au Proche-Orient, vous n'intéresserez les Iraniens que si vous avez dans votre poche des appuis solides ailleurs. Sinon, vous perdez votre valeur de négociation. Et donc, le jeu des alliances dans ce sens plus plus ténu du terme, moins précis, moins juridique. C'est un jeu qui reste subtil, mais qu'il est difficile de bouleverser du jour au lendemain.
Alors prenons justement le cas du Proche-Orient et du Moyen-Orient et la France. Est-ce que l'alternative, elle se situe là? C'est-à-dire choisir par exemple soit l'Arabie Saoudite, soit l'Iran? Ou bien est-ce que ça n'est pas finalement une conception des alliances qui reste ancrée dans un passé qui est peut-être révolu aujourd'hui et où l'idée, ça serait peut-être davantage de dire on peut être allié, en tout cas interlocuteur, à la fois et de manière équilibrée, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Est-ce que ça n'est pas ça qui est aujourd'hui à l'œuvre? Est-ce que ça n'est pas ça qui illustre finalement la diplomatie d'un Donald Trump, alors dans son style à lui, mais qui est totalement décomplexé et qui ne semble pas, en tout cas, être trop, contrainte par par le passé, Guillaume Devin?
Je crois que pour répondre à votre question, il faut un peu définir les termes, parce que là, on utilise le terme d'allié un peu dans toutes les directions. Allié, si c'est simplement soutenir une position politique ou une orientation politique d'un autre pays, c'est autre chose que de négocier un accord de sécurité commune avec des bases militaires, et c'est encore autre chose que d'appartenir à une organisation qui est fortement institutionnalisée. Les États-Unis appartiennent à l'OTAN. D'abord, les alliances multilatérales, il faut quand même le rappeler, les alliances multilatérales comme l'OTAN, ça tient sur les doigts d'une main à peu près, aujourd'hui. Il y a l'OTAN, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, c'est-à-dire la Russie et quelques pays d'Asie centrale plus la Biélorussie, il y a l'Organisation de Coopération de Shanghai, les mêmes avec la Russie, avec la Chine, ces deux dernières sont assez peu effectives, il y a l'Union africaine qui n'a pas d'effectivité. Il y a l'Union européenne dont nous avons parlé, et puis il y a éventuellement le bras armé de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle l'ECOMOC. Ça tient sur peu de choses, les relations, les alliances multilatérales. Les alliances bilatérales sont beaucoup plus développées. Actuellement, les États-Unis possèdent plusieurs centaines de bases militaires dans environ une centaine de pays dans le monde. C'est très difficile à calculer, il y a eu beaucoup d'auteurs qui l'ont fait, mais en gros, c'est à peu près la situation. Plusieurs centaines de bases militaires dans une centaine de pays du monde. C'est un réseau militaire extrêmement dense. Et puis, ces deux aspects-là sont à dissocier d'une simple coopération politique qui vise à soutenir l'Arabie Saoudite parce que on est d'accord avec telle ou telle de ses orientations ou en désaccord avec telle ou telle de ses orientations.
L'Arabie Saoudite, par exemple, n'est pas un allié de la France. Enfin, au sens où
mais dans
que
quel,
vous donnez
dans quel sens?
Dans quel sens? Je sais pas, moi.
Un accord de sécurité commune, non.
Pierre Grosser.
Si la France est attaquée, l'Arabie Saoudite, normalement, vient pas nous soutenir.
Mais l'alliance, elle se pense forcément d'un point de vue militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on n'est pas passé dans un autre registre de l'alliance qui serait intérêts économiques, finalement?
Non, qui qu'il y ait des rapprochements, des formes d'alignement, etc. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, on parlait des alliances bilatérales, effectivement, notamment en Asie, les Américains ont énormément d'alliances bilatérales, ce qui historiquement est différent de ce qu'ils ont fait en Europe, c'est que partout, on utilise assez peu le terme d'alliance. On voit l'Inde qui multiplie les accords un peu partout avec des États-Unis, s'est rapproché des États-Unis, on continue à avoir des bons liens avec la Russie. Monsieur Erdogan était hier en Inde. Il y a des discussions avec le Japon, avec l'Australie, etc. Vous avez... on parle beaucoup d'une possible alliance entre Russes et Chinois, mais il n'y a pas de texte formel entre Russes et Chinois. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rapprochements, de discussions, même parfois des manœuvres communes, mais qui n'engagent à rien. Des alliances formelles, comme disait Guillaume, elles sont pas très nombreuses. Et justement, c'est ça aussi qui est parfois un tout petit peu étonnant et compliqué. C'est cette multiplication des liens diplomatiques, des accords diplomatiques qui n'engagent pas forcément et qui rend difficile la lecture. C'est vrai que quand on avait des alliances, notamment au temps de la guerre froide, relativement simples ou des clients d'une grande puissance, même si ça pouvait changer de temps en temps, mais c'était assez rare. C'était à peu près clair. Mais là, c'est vrai que tout le monde joue plusieurs jeux à la fois. On a tout fait. Alors, ça s'appelle en sciences politiques le hedging. Bon, c'est des choses
hedging,
H-E-D-G-I-N-G. Bah, c'est une façon finalement de tirer un peu des ficelles différentes pour pas être aligné complètement. Et ça, la plupart des pays d'Asie le font. Le Vietnam, on a vu qu'il y avait des rapprochements avec les États-Unis assez forts, puisque maintenant même l'embargo sur les armes américains a été levé à l'égard du Vietnam. Mais Vietnam continue d'avoir des très bonnes relations avec le Russe, avec les Russes. Le Vietnam ne va pas s'aligner avec les Américains contre les Chinois. Donc, si vous voulez, on a un système qui est beaucoup plus souple. Et au Moyen-Orient, quoi qu'on dise, il est relativement souple. Il y a beaucoup plus de gens qui discutent avec leur adversaire que nous ne l'accepterions, si vous voulez, avec notre vision souvent relativement manichéenne. Et même un pays comme Israël, qui souvent est considéré comme le camp des démocraties, etc., discute avec énormément de monde. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il fait des alliances avec énormément de monde. Mais on discute beaucoup, on se rapproche pour des raisons parfois conjoncturelles, parfois aussi comme signal. Hein, se rapprocher d'un pays, ça peut être aussi un signal. Les voyages servent aussi de signaux. Et on a tout un tas de textes sur des rapprochements, des plus ou moins stratégiques, avec toute une gradation justement dans les relations entre les pays, qui montrent que finalement, on n'est plus du tout avec seulement deux systèmes d'alliances comme on l'a été pendant très très longtemps.
Est-ce que vous avez l'impression les uns et les autres qu'aujourd'hui la politique étrangère française, elle tient compte justement de ce changement-là, ou bien qu'au contraire on est resté quand même justement très ancré dans nos alliances, ce qui est reproché, hein, notamment à la diplomatie française, d'avoir peut-être trop négligé le partenaire russe parce qu'on s'était soumis, c'est ce que disait un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, à notre allié américain. Pierre Grosser.
Oui, mais alors là il y a eu un changement de contexte avec les Russes, mais il y avait quand même des contacts qui étaient relativement importants avec les Russes, et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de gens qui poussent à des bonnes relations avec les Russes. Mais si effectivement c'est beaucoup rapproché des pays du Golfe ces derniers temps, il y a un certain nombre, notamment d'intérêts économiques qui veulent qu'on se rapproche de l'Iran, et on sait très bien que pour discuter d'un certain nombre de sujets, il faut aussi discuter avec l'Iran. Voilà, c'est aussi en Asie. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier en allant uniquement du côté des Chinois, donc on commence à voir plus de monde. Même les Russes, ils vont pas voir que les Chinois. Il y a énormément de discussions avec les Japonais, il y a les Vietnamiens, il y a les Indiens, etc., etc. Donc je crois que c'est la multiplication des options et la capacité justement à être un interlocuteur valable pour tout un tas de pays qui est l'atout diplomatique, au-delà du fait qu'on a des alliances qui, elles, sont des alliances pérennes, traditionnelles et ancrées dans des questions de sécurité.
Guillaume Devin et ensuite Michel Duclos. Guillaume Devin.
Oui, non, mais je crois que dans un monde, disons pour aller vite, qu'on appellera multipolaire, les relations sont beaucoup plus fluides, et que si la France conserve un certain nombre de points d'ancrage, en l'occurrence deux points d'ancrage importants ce pays, la France, essaye de rendre complémentaires, c'est-à-dire le pilier européen et puis le pilier atlantique, l'alliance atlantique, qu'on soit ou non dans l'organisation intégrée, hein, mais on reste dans l'alliance atlantique, et puis la politique européenne de sécurité et de défense. En dehors de ces deux points d'ancrage, je crois qu'effectivement la diplomatie demande beaucoup de souplesse, beaucoup de fluidité, parce que on est face à des partenaires qui sont susceptibles de changer de position. Nous n'avons plus vraiment d'ennemis, nous n'avons que des partenaires adversaires.
Michel Duclos.
Oui, la pactomanie n'est plus à la mode, si vous voulez. Donc
la pactomanie,
utilisée par John Foster Dulles. Ouais,
c'était les grandes alliances très formelles, l'OTAN, mais ensuite l'OTAS, comment ça s'appelait dans le
pacte de Bagdad,
Donc ça, c'est plus dans l'air du temps. Et d'une certaine façon, c'est vrai que le noyau dur du monde occidental, l'OTAN est et l'UE, c'est un peu exceptionnel. C'est des
communautés. Ce presque des vestiges de.
Oui, sauf que.
D'une façon de voir les relations internationales.
Sauf qu'elles aussi ont beaucoup évolué. Il y a eu une mutation et maintenant c'est autre chose que des pactes militaires. Ça va beaucoup plus loin et à la fois moins loin. C'est autre chose. Et ça ne nous empêche pas, en effet, de diversifier nos options. Mais on appelle ça maintenant des partenariats. Avec l'Inde, avec la Chine, avec le Brésil, nous avons ce que nous appelons des partenariats stratégiques. Et c'est un peu l'équivalent moderne, c'est-à-dire quelque chose de plus flexible, de plus souple, mais qui montre bien qu'on cherche des appuis, qu'on cherche une convergence des intérêts, qu'on cherche un dialogue, ce qui est toujours très important pour les diplomates, parce que c'est une façon de déminer les causes de désaccords ou de tensions possibles et de rechercher des terrains d'entente et d'action. Donc c'est ce monde-là dans lequel nous vivons. Il faut dire aussi qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, on croit que l'Union européenne, c'est une organisation unanimiste. Mais évidemment non. À Bruxelles, sur chaque sujet, surtout quand c'était la majorité qualifiée, il faut trouver des alliés. Non pas au sens juridique et technique, mais des gens qui pensent comme vous et qui vont voter comme vous. Et là, si vous voulez, les communautés européennes, au début, c'était la France, l'Allemagne et le Benelux. Et donc, c'était la France et l'Allemagne. Il y avait une opposition, c'était les Pays-Bas. Maintenant, c'est beaucoup plus divers avec les pays, avec le Royaume-Uni qui a beaucoup changé les choses. Ensuite, les vagues successives d'élargissement. Aujourd'hui, sur chaque dossier, les diplomates à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, retrouvent le métier diplomatique traditionnel, les réflexes du métier traditionnel, qui est de chercher, sinon des alliés, ou des coalitions, pour, sur chaque sujet, être sûr de passer, comment dire, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de voix pour obtenir, pour atteindre nos objectifs.
Ce serait peut-être plus simple finalement de retenir le terme de coalition, de coopération que de celui d'alliance pour essayer de définir aujourd'hui ce que sont les relations internationales, Guillaume de...
Alors la coalition, c'est encore autre chose parce que le président Bush, le petit... s'est engagé dans les fameuses coalitions of the willing, les coalitions de ceux qui veulent, de ceux qui sont partants.
La mission fait la coalition.
Bon, le président Bush, le petit, c'est lequel? C'est le fils ou c'est le père?
Bah, c'est pour le fils, puisqu'il était
d'accord.
Petit.
Non, mais je savais pas si c'était
Napoléon,
une appréciation
sur son
rôle dans l'histoire.
Donc, là, on est encore sur autre chose dans la coalition of the willing. Moi, je parlerais plutôt d'accords de sécurité commune ou de partenariat de sécurité pour indiquer ou souligner cette fluidité des relations de sécurité.
Michel Duclos.
Il y a peut-être un point important à signaler sur le président Trump, mais qui au fond était déjà annoncé chez son prédécesseur, M. Obama. C'est une vision ahistorique et relativement ahidéologique des choses. Les gens comme nous les générations précédentes d'Américains avaient ce sentiment de communauté, de destin très fort. Hein. Et avec Obama, ça avait un peu disparu. C'était un bon allié de l'Europe, mais sans affect particulier. Il aimait le chancelier Merkel, l'Allemagne. Mais pour le reste, il était relativement indifférent. Quant à Trump, ce qu'il dit, maintenant il faut voir comment il agira, mais son discours semble montrer qu'il n'a aucun respect pour les liens historiques et aucune appétence pour les questions de droits de l'homme ou de régime interne. Donc pour lui, la Turquie, qu'il y ait de la répression ou pas, manifestement, ça n'entre pas dans ses critères. Et donc, si cette tendance-là devenait un vrai élément structurant des relations internationales, peut-être que là, sans changer les textes ou les accords des alliances, il y aurait un changement de nature de nos alliances.
Alors justement, est-ce que cette tendance, vous la voyez à l'œuvre dans les relations internationales, Pierre Grosser? Est-ce que cette approche ahistorique et ahidéologique, elle est peut-être pas seulement du côté de la Maison-Blanche, mais chez un certain nombre de dirigeants aujourd'hui?
Fondamentalement, il y a des questions de génération. C'est vrai. Quand on a vécu la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a été le cas quand même pour beaucoup de présidents qui l'ont faite, on a un rapport à ces alliés avec qui on se battait, même si, encore une fois, formellement, on n'était pas complètement alliés, qui est complètement différent. Après, évidemment, il y a eu la guerre froide qui a eu un rôle important. Et puis, il y avait des liens avec toute une génération, quand même, d'élites américaines qui étaient atlantistes, c'est-à-dire qui faisaient le tour d'Europe pendant leurs études. Dean Acheson, qui a créé l'OTAN, enfin, très largement, était quelqu'un qui était parfaitement... anglophile, qui avait une attirance pour l'Europe évidente. Après, évidemment, les générations passent. Reagan était gouverneur de Californie, donc sa connaissance de l'Europe était quand même beaucoup moins importante. Vous aviez, puis les présidents récents, évidemment, n'ont pas la même appétence. Donc ça, je pense que c'est un élément de génération qui joue. Après, il y a quand même une tendance dans la diplomatie américaine, et peut-être dans d'autres, mais je crois américaine, qui est quand même une approche très lawyer, de juriste des questions. Donc on règle des dossiers, on traite des dossiers. Donc si vous voulez, ces éléments, j'allais dire humains, même si ça n'empêche pas qu'il y ait encore des réseaux transatlantistes qui existent, mais ces aspects humains existent moins parce qu'on a cette approche lawyer. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'avec avec Trump, on va avoir l'approche business ? C'est-à-dire, en gros, combien ça coûte ? Combien ça rapporte, combien les alliés payent. D'ailleurs, est-ce que ça se mesure ? C'est toute la question. Comment est-ce que ça se mesure une alliance, que ce qu'a rapporte une alliance ? C'est extrêmement compliqué. Mais il n'est pas le seul à penser en ces termes-là. Vous avez tout un tas de think tanks qui sont conservateurs relativement isolationnistes, qui depuis longtemps disent les Japonais, ils ont qu'à faire une arme atomique. Les Coréens du Sud, la question de la Corée, on n'a qu'à laisser les Coréens du Sud avoir une arme atomique. Équilibre de la terreur. Comme pendant la guerre froide, et l'affaire est réglée. Donc je pense que c'est aussi un changement de culture de gouvernement, lawyer et business, par rapport à, j'allais dire, je n'ai pas des humanités, je ne suis pas en train de faire le nostalgique du temps des humanités, mais je pense que ça change très largement les relations aussi entre les gens.
Alors sur cette question justement d'un changement de génération et d'une approche peut-être moins idéologisée, encore que, je voudrais vous faire entendre ce que disait à propos d'un certain nombre de dirigeants qui aujourd'hui gouvernent des grands pays comme les États-Unis, la Russie ou encore l'Inde, ce que disait Marine Le Pen qui était reçue au Kremlin à la fin du mois de mars. Elle parlait de Poutine, mais pas seulement de lui.
Je pense qu'il représente aussi une nouvelle vision. Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine, c'est le monde de Donald Trump aux États-Unis, c'est le monde de Monsieur Modi en Inde. Je suis probablement celle qui partage avec l'ensemble de ces grandes nations une vision, encore une fois, de coopération et non pas une vision de soumission. Et non pas une vision belliciste telle que celle qui est exprimée bien souvent, trop souvent, par l'Union européenne.
Est-ce que cette nouvelle vision du monde qui est peut-être à l'œuvre aujourd'hui, elle explique aussi, Guillaume Devin, l'identité de ceux qui dirigent ces pays, ou bien est-ce qu'ils sont finalement soumis à ces changements, mais sans forcément avoir de prise ? En tout cas, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une nouvelle génération qui aurait une approche peut-être en tout cas plus décomplexée des relations internationales ?
Non, je ne pense pas. Je pense que comme vous le disiez très justement en début d'émission, enfin vous ne l'avez pas formulé comme ça, mais on ne change pas d'alliance comme de chemise. Il y a des valeurs, il y a des intérêts.
C'est vrai que c'est le titre qu'on a failli retenir pour l'émission
ouais.
de ce soir.
Ben voilà. je dirais que les alliances, pour faire un parallèle un peu avec la sociologie, les alliances, c'est un peu comme les habitus. C'est ancré dans l'histoire, dans les traditions, dans les générations, dans les valeurs, dans les intérêts. Et on peut en changer. Je l'ai dit, notamment lorsque les menaces, la perception des menaces change, ou bien lorsque tout simplement il y a un désavantage manifeste à y rester, mais on ne change pas d'alliance aussi facilement. Alors on peut se retourner vers la Russie et considérer que tout de même c'est un pays qui n'a pas été traité de manière suffisamment équitable. On peut éventuellement sortir de l'organisation intégrée de l'OTAN, pour autant on ne quittera pas l'Alliance Atlantique. Ça, je ne le pense pas. Je voudrais juste ajouter un mot là, parce que j'ajoute rien, mais réagir à tout à l'heure. Tant pis.
Et ben vous savez quoi, peut-être qu'on aura l'occasion de vous réinviter. Je sais pas si ça sera exactement sur ce thème là, mais qui mériterait sans doute un approfondissement. Pourquoi pas un ouvrage. Je sais pas si ça aura donné à l'un d'entre vous l'idée d'écrire un prochain livre sur ce sujet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion, Michel
merci.
Duclos, Guillaume Devin, Pierre Grosser. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site France Culture. france.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Romain Masson avec à la prise de son Jacques Hubert. Demain, l'État doit-il défendre une certaine idée de la famille? Ce sera un débat en partenariat, comme chaque premier jeudi du mois, avec le journal La Croix.